I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans un rendez-vous tech spécial. Spécial pourquoi ? Parce que d'habitude, dans le rendez-vous tech, on parle de l'actualité du net, d'Internet, des gadgets, de tout ce qui fait le monde merveilleux de la technologie. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On va parler d'un sujet spécifique. Bon, c'est un petit peu l'été, c'est les vacances, donc on fait des épisodes spéciaux. Et on va parler d'e-commerce. C'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup et pas assez, diront peut-être certains qui sont invités dans cette émission pour m'éduquer sur le sujet. Dans l'émission d'habitude, mais on va corriger ça tout de suite et on va vous apprendre tous les détails absolument fascinants de ce monde merveilleux du commerce en ligne. Je suis Patrick Béja, c'est le Rendez-vous Tech et nous sommes en été. Je ne sais pas, un moment, sans doute en juillet. Et je suis très heureux de recevoir, alors une voix que vous avez déjà entendue dans l'émission, Laetitia Lamarie, qui se joint à nous encore une fois. Comment ça va, Laetitia ?
Ça va très bien. Ça va très bien. Merci, Patrick, de m'inviter de nouveau au sein de ton micro.
Eh bien, écoute, je suis très heureux de t'avoir. C'est vrai que tu es venu quelques fois nous dire bonjour dans l'émission et tes interventions ont été très appréciées. J'avais dit, écoute, Laetitia, il faut que tu viennes me parler d'e-commerce. Et tu m'as dit, OK, mais il faut que je vienne avec mon compère, mon co-animateur, Adrien. Et j'ai dit, attends, mais t'es sûr ? Il est relou, il parle tout le temps, machin. Et t'as dit, non, moi, je le fais. Je veux, sinon, c'est pas possible. Je dis, bon, OK, allez, ça va aller. Donc, bonjour, Adrien, comment vas-tu ? J'espère que t'es en forme.
Bonjour, Patrick. Coucou, Laetitia. Merci beaucoup de l'invitation. Et c'est la première fois que je passe de l'autre côté. Comme je te disais en off tout à l'heure, ça fait plus de 10 ans que je t'écoute. Quand je vivais en Argentine, quand j'ai voyagé, j'ai vécu en Colombie, en Allemagne. Et donc, ça me fait tout bizarre de te parler. Et je suis ravi d'être là pour porter un sujet qui nous passionne, Laetitia et moi, l'e-commerce.
Ben oui, parce que comme on le précise à chaque fois que Laetitia est dans l'émission, vous animez le Café de l'e-commerce, donc vous êtes un petit peu le podcast spécialiste du sujet en France. Donc je suis ravi de vous avoir, d'avoir les meilleurs interlocuteurs possibles pour m'expliquer un petit peu ce qu'est l'e-commerce. C'est un domaine, comme je le disais, que je ne connais pas très bien. Mais du coup, on a, alors, vous m'avez dit, hein, quand on prépare l'émission, vous avez préparé tout un tas de trucs, un deck de présentation PowerPoint, vous êtes hyper professionnel, du coup, je suis très intimidé. Et on a un planning qui va couvrir tous les sujets. Et oui, pardon, tu voulais dire quelque chose, Adrien ?
Ouais, tu sais, Patrick, parce que la difficulté, c'est de rendre quelque chose synthétique et simple. Et c'est facile de complexifier, de rendre ça long. Et avec Laetitia, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça intéressant ? Et on a une petite heure ensemble. Donc, on a essayé de choisir ensemble les sujets qui nous paraissaient intéressants pour quelqu'un qui découvre, mais qui connaît quand même la tech et qui suit ton podcast notamment.
C'est ça. Écoutez, je vous propose qu'on se lance avec la première question, du coup, la question la plus simple, l'e-commerce, c'est quoi ? Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont penser genre tout de suite au marketing, à ce genre de choses. C'est pas tout à fait ça. Donc, je sais pas, Laetitia, tu veux répondre
oui,
à la question ?
Oui, j'y vais. Moi, j'adore répondre à cette question parce que j'ai une formule toute magique, toute prête. C'est tout est commerce, tout est e-commerce. Allez, on va donner la vraie définition. Le e-commerce ou le commerce électronique, c'est l'ensemble des transactions commerciales qui s'opèrent à distance par le biais d'interfaces électroniques et digitales. Donc, pour qu'il y ait e-commerce, il faut qu'il y ait un marchand, il faut qu'il y ait un vendeur et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète. C'est comme dans le vrai commerce physique, sauf que parfois on a une caisse, on a la caisse. Dans le e-commerce, on a plein d'autres briques qui sont là. Et puis, dès lors qu'il y a une transaction, on peut déjà dire que c'est du e-commerce. Alors, on a l'ancêtre du e-commerce qui était la VAD, la vente à distance, pour les nostalgiques des catalogues.
Le catalogue La Redoute, c'est ça ?
Eh oui, La Redoute.
Ou les Trois Suisses, machin.
Oui. C'est un peu la même chose, la Redoute et puis les Trois Suisses, ils vendaient via un catalogue. Il y a une transaction qui s'opérait, on remplissait le petit bon de commande, on envoyait, puis quelques mois après, on recevait enfin notre colis. C'est la même chose. La réalité, c'est que le e-commerce est une forme digitale de commerce et qu'on ne s'en rend pas compte, mais le e-commerce est partout. Si pour certains, vous avez regardé la demi-finale, c'est pas demi-finale, hein, si, non, c'était le quart de finale Roland-Garros-Nadal. le match Djoko-Nadal, vous avez été obligé d'aller sur Amazon Prime puisque ça se passait plus, c'était en soirée, ça se passait plus sur France Télévisions. Vous n'avez pas payé. En revanche, vous avez donné votre email. Il y a eu une transaction qui a été faite. C'est du commerce connecté, c'est de l'e-commerce.
Eh oui, parce qu'il y avait une question à un moment, est-ce qu'on va devoir donner son email, se connecter par email avec son compte Amazon ou pas ? Et finalement, c'était le cas. Et effectivement, y a une transaction et c'est un truc qui est présent absolument partout et qui peut paraître un peu, mais du coup, c'est une transaction, on achète quelque chose ou on voit quelque chose, c'est de l'e-commerce, ok, terminé. Mais il y a tout un monde derrière. Adrien, oui ?
Ouais, parce que en fait, on peut caractériser l'e-commerce comme commerce électronique. Donc, ce qui va caractériser, c'est le paiement en ligne. Et à partir du moment où on se dit paiement en ligne, parce que cette définition, la définition de Laetitia, elle est relativement vaste. On pourrait dire que quand tu commandes ton Uber, c'est du e-commerce. Il y a bien une transaction en ligne. Le Deliveroo, les Uber Eats, c'est pareil. En magasin, tu sais, Laetitia parlait il y a une seconde des catalogues et de l'e-commerce qui est arrivé. Mais les magasins aussi sont réinventés. Maintenant, tu as on appelle des POS, des point of sales. Tu vas avoir des tablettes magasins ou des dispositifs que tu vas pouvoir acheter au travers de ces tablettes. Ça passe par Internet, donc c'est bien une transaction en ligne. Donc, paradoxalement, on peut
dire que c'est dans le magasin même, genre, moi, je vais parler d'un truc dont je suis familier. Tu arrives dans le McDo, tu fais ta commande sur les grands, les immenses écrans tactiles, les bornes, ouais. Et donc, ça, c'est considéré comme l'e-commerce aussi. Ça rentre dans cette industrie.
En fait, moi, en tout cas, oui, je le considère.
Mais c'est pour ça que la définition, elle est relativement flexible parce qu'il y a les puristes et la réalité avec Laetitia, nous, dans le domaine, et on va en parler là cette heure-ci, le domaine dans lequel on est expert ou on évolue, c'est l'e-commerce du retail. C'est les magasins qui vont vendre des produits, qui vont avoir un site internet ou alors des NVB ou des marques qui vont être...
Attends, c'est quoi NVB ?
NVB, on va l'expliquer, c'est les marques qui sont... Bah, Laetitia, si tu veux expliquer des NVB.
Ouais, ce sont des digital native vertical brands. Ce sont des marques qui se sont faites uniquement en ligne, en fait. Elles n'ont pas de magasin physique dans un premier temps. Bien souvent, le Graal pour elles, c'est de commencer à ouvrir des boutiques physiques. Mais je vais te donner un exemple, le slip français. Donc, un exemple très français, a commencé essentiellement en ligne, donc a beaucoup de marketing, beaucoup de choses comme ça, mais sa principale vitrine, c'était son site, bien souvent c'est un Shopify, je dis n'importe quoi parce que ça se trouve, c'est pas ça pour nos amis du slip français, mais en tout cas, sa principale vitrine et son principal canal de vente est en ligne, se fait en ligne, la communication se fait en ligne, et puis après, le Graal, comme je disais, c'est d'ouvrir des boutiques.
Et Patrick, peut-être que tu as entendu parler de Dollar Shave Club parce qu'ils avaient buzzé avec une vidéo très, très amusante il y a quelques années. Ils s'étaient rachetés. Ils vendaient que en ligne. Tu as également Casper, les matelas. Tu as peut-être entendu parler de cette marque. Il y en a un paquet. Et c'est des marques qui vendent que en ligne.
Mais il y en a plein et je suis exposé, je pense, à beaucoup d'entre elles parce que d'une part, pour communiquer, ils font de la publicité par des vecteurs digitaux, évidemment. Donc, il y a du marketing, bien sûr, sur Instagram. Enfin, il y a plein de marques comme ça, des trucs un petit peu semi-haut de gamme qui vendent uniquement en ligne, parfois, voire souvent avec des trucs en abonnement. Je pense par exemple à des marques de brosses à dents, comme Quip ou enfin il y en a des tonnes qui font des pubs dans des podcasts ou sur Instagram comme je disais il y a plein de marques qui sont assez cool et qui sont c'est vrai des marques qui auraient peut-être pas existé avant qui n'ont pas de présence en retail que ce soit en magasin propre ou en présence dans les rayonnages de grands magasins et c'est des marques qui pourraient pas exister effectivement sans le commerce en ligne.
Et donc, 100% de leurs revenus viennent de leur site e-commerce. Donc, tu imagines bien qu'il y a plein d'outils, de dispositifs faits parce que c'est stratégique. 100% de leur business vient en ligne. Donc, s'il y a un problème sur le site ou s'il y a un souci, ça affecte directement leur performance et leur vente.
Alors justement, faisons un petit tour de l'histoire de l'e-commerce. Si on remonte, on va peut-être pas remonter au catalogue des Trois Suisses. Encore que.
Méfie-toi avec Laetitia, tu vas voir, ça remonte très loin.
Mais ouais, donc si on fait un petit historique rapide pour pouvoir se situer, comment a évolué l'e-commerce ? J'ai envie de dire avec la création d'Internet, mais comme tu le fais remarquer, ça existait avant, donc... Comme...
Ouais, ouais.
Jusqu'où alors, on remonte.
C'est corrélé. Hein. Et puis après, on peut aller plus loin en se disant qu'il y a eu un développement énorme avec, avec le téléphone et notamment avec l'iPhone. Bon, on va commencer en 1979 avec Michael Aldrich qui a inventé les achats en ligne pour permettre le traitement des transactions entre les consommateurs et les entreprises. Voilà, donc fin des années 70, il conceptualise
ça. Mais attends, fin des
ça,
années 70, il était sur quelle plateforme ?
Oh bah, la sienne, hein. Je pense qu'il a dû développer la sienne.
Non, mais je veux dire, on se connectait comment pour, c'est, tu dis c'est par téléphone, en fait, ce genre de choses, non ?
Non, c'est sur, il a commencé à développer sur le net.
D'accord.
Et très vite, les banques se sont intéressées, se sont dit, mais il y a quelque chose à faire, on va travailler sur l'aspect transactionnel. Donc, on a Citibank en 81 qui se met à développer des systèmes transactionnels. Et puis alors après, je fais un bond très en avant en 1994 avec bien évidemment l'arrivée d'Amazon,
ouais,
eBay
bon,
et Pizza Hut qui proposent. Tu viens de le dire, je commande ma pizza au téléphone, mais on peut le faire aussi autrement. Et Pizza Hut a été l'un des pionniers à dire, je vais développer un site, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton Margarita et puis vous aurez un livreur qui arrivera. Bon, je schématise, mais c'est l'un des pionniers et on l'oublie très souvent. Mais,
Pizza Hut.
Et à l'origine, d'accord. Tu sais Patrick, tu rebondissais dessus, effectivement, il n'y avait pas Internet, ça ne s'appelait pas Internet, mais c'était un ordinateur qu'on collectait avec
les
appareils téléphoniques.
Les appareils,
bien sûr,
téléphone, il a bidouillé des trucs, ça s'appelait pas Internet, mais il connectait bien des consommateurs.
Oui, tu te connectais à des serveurs par le téléphone que tu posais à l'époque. C'était même pas les modems qui faisaient bip bip, c'est et qu'on n'a pas beaucoup eu ici parce que le Minitel a formalisé la chose de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus user friendly. Mais beaucoup aux États-Unis, ils avaient le téléphone que tu posais sur le récepteur, effectivement, et tu te connectais comme ça, différencié. Alors, c'était même pas AOL et ce genre de truc à l'époque, mais.
Alors, Patrick, Lessia, tu as donné l'historique de l'e-commerce, mais c'est quoi ton historique ? Est-ce que tu te souviens de ton premier achat e-commerce ?
Wow ! Alors, mon premier achat, tu sais quoi ? Ça devait être, j'imagine que c'était une pizza. En fait, moi, j'étais sur Internet très tôt.
Pizza payée en Bitcoin ? Non, c'est pas celle-ci.
C'était toi ?
C'est ça, pour 17 Bitcoins seulement, j'ai eu une margarita livrée directement chez moi. Non, c'était pas moi. Non, j'ai eu Internet très tôt. Mon premier contact avec Internet, ça devait être 91, dans mon IUT, qui était connecté à Internet. Et c'était avant même l'arrivée du web. Donc, vous voyez, ça remonte. À l'époque, c'était des serveurs FTP, des trucs en texte vert sur un écran noir. Mais du coup, moi, j'ai pourchassé la possibilité d'avoir accès à Internet chez moi depuis ce moment-là. Et donc, en 94-95, je ne sais pas si c'était déjà en France avec Pizza Hut ou d'autres, mais moi, j'avais déjà Internet à la maison et je chassais la possibilité de pouvoir me connecter sans limite et sans payer à la minute. Et donc, il n'est pas du tout impossible que ça soit ça. Mais je ne saurais pas te dire. Il est possible que ça ait été une pizza, peut-être, autour de cette époque. Ouais.
Et tu as déjà fait un achat complètement what the fuck, insolite ? Ou tu es relativement calme ?
Non, je ne suis pas du genre à naviguer sur AliExpress à 2h du mat et commander un truc de Chine, tu sais, que tu as vu au détour d'une navigation un petit peu inhibée, par exemple. Pas inhibée, imbibée, je veux dire. Les achats, généralement, moi, je suis plutôt du genre à bien rechercher mon truc, à avoir 40 vidéos sur YouTube sur le sujet, des comparatifs sur Consumer Reports, sur Wirecutter, ce genre de choses, ou sur les numériques. Et non, moi, je ne fais pas d'achats what the fuck, je ne fais que des achats qui sont motivés et réfléchis. Donc,
On va en parler tout à l'heure, c'est intéressant comment tu fais ta recherche, et on a tous des profils ouais. Différents.
Ouais, ouais. Et du coup, d'accord, on est donc 94-95, il y a certaines sociétés qui commencent à s'y mettre, dont Pizza Hut, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dans la brèche à la suite de Pizza Hut. Amazon, eBay, etc. On est avant les années, le début des années 2000. Donc c'était, c'était pas du proto e-commerce, mais ça commençait.
Ça marchait. Les gens commençaient à avoir un peu moins peur de donner des informations personnelles. On en parlera tout à l'heure. Mais faut, encore une fois, si on reprend la définition de l'e-commerce, qui est la transaction en ligne, les sites vitrines, etc., qui sont en flash dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. Tout le monde est content, tout le monde a son site. Maintenant, la transaction prend des informations personnelles. Les gens, petit à petit, commencent à s'habituer et à le mettre. Et on va dire fin des années 2000, vers 2010, ça y est, c'est quelque chose qui est...
Bah, c'est commun, oui, bien sûr.
C'est commun, c'est dans les mœurs.
Les marques se réveillent et se disent « Merde, je suis en retard, il faut que je lance mon site internet. » Parce que sinon mon concurrent le fait, et on connaît l'histoire de l'e-commerce, et tu peux vendre n'importe où tout le temps, et donc des concurrents internationaux commencent à adresser ton marché local.
T'as pas besoin d'avoir ton magasin ouvert à certaines heures de la journée, tu peux vendre de n'importe où et n'importe où. Et donc, on peut dire, dans les années 90, c'est le début du truc, les choses s'établissent, les nouveaux apparaissent avec Amazon, eBay, etc. Et Amazon, qui au début ne vendait que des livres, commence à s'étendre et à vendre de plus en plus de choses. Ok, ça, c'est le début. Et donc, parce que 2010, comme vous le disiez, c'est établi, c'est clair, on le fait, tout le monde le fait et personne n'en a plus peur. Donc, c'est dans les années 2000, donc 2000 à 2010, que tout ça, ça se formalise, ça se normalise.
Ça joue. Que ça joue, que ça se décante. On a surtout l'arrivée d'un Google qui arrive et que c'est comme ça aussi que l'e-commerce aussi a son... pour le coup, pas son parent pauvre, mais son parent très, très fort qui l'aide et qui participe vraiment à l'avènement du e-commerce. L'arrivée de Google juste avant les années 2000. On a Amazon qui arrive en France, Amazon.fr qui arrive dans les années 2000. Et puis surtout, pour moi, c'est l'arrivée, alors Adrien en parlera beaucoup mieux, mais l'arrivée de toutes ces solutions qui développent l'e-commerce, qui font de l'e-commerce. Donc, on a Magento qui arrive en 2007. Adrien développera davantage sur d'autres solutions. Mais ça concourt aussi, ça participe à l'avènement du e-commerce. Et moi, surtout, je vois l'avènement de l'iPhone comme un peu quelque chose de très prophétique qui va un peu
accélérer,
propulser tout ça. Parce que qui dit iPhone, dit développement des apps, dit développement de tout ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Et tout ça, si on n'avait pas eu, en tout cas, pas l'iPhone, mais allez, le smartphone pour être moins focus Apple, on n'en serait pas là aujourd'hui. On pourrait pas parler de social commerce ou toutes ces choses-là.
Ouais. Mais du coup, alors attendez, ça m'amène plein de questions déjà, parce que tu évoques Google et tu dis que Google a beaucoup aidé au développement de l'e-commerce. Et je voudrais poser la question sur Magento que je ne connais pas, donc je voudrais que vous me disiez ce que c'est. Mais Google, c'est parce que le moteur de recherche a permis de trouver les choses qu'on cherchait, en fait. C'est en ça qu'il a permis le développement de l'e-commerce, Adrien ?
C'est exactement ça. Laetitia pourrait répondre également. Mais en fait, à partir du moment où tu indexes beaucoup plus facilement des produits, ils ont développé début 2000, je sais, Patrick, que tu te souviens, un truc qui s'appelle Frugal. Tu te souviens de ce service qui a été ensuite arrêté. C'était un annuaire e-commerce. C'est moche, mais c'est début 2000. Après, ils l'ont transformé en Google Shopping qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, l'indexation, ça fait que les marques, elles doivent suivre parce qu'elles veulent arriver dans les premiers résultats. Donc, il faut optimiser ces fiches produits et Google va les mettre beaucoup plus en avant. Il va également les pousser à avoir des versions mobiles. On ne va pas parler de SEO, enfin de référencement naturel, mais l'impact d'avoir une navigation fluide est réel sur ton positionnement dans les moteurs de recherche. Donc, on va dire, il y a eu les consommateurs d'un côté qui avaient des habitudes et qui commençaient à être plus appétents à acheter, les plateformes, on en discutera tout à l'heure, les acteurs qui également se mettent à un niveau et les marques qui se bougent. Tu sais, 2010, c'était il n'y a pas longtemps et pourtant, en 2010, il y avait très peu de marques de luxe qui étaient sur l'e-commerce. C'était un des derniers qui sont arrivés. Et aujourd'hui, c'est eux qui lead. Alors, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais on va dire ils lead l'e-commerce. Il y a beaucoup d'innovations qui viennent de
l'innovation vient beaucoup de luxe.
Ouais. Donc luxe, parce qu'ils ont des moyens, etc. Ils ont compris beaucoup de choses. Donc finalement, ça a peu. Il y en a qui sont arrivés très tard, mais qui ont rattrapé le train.
C'est chiant. Bon, il y aurait chaque sujet sur lequel on pourrait passer longtemps, mais une question que je veux absolument vous poser, c'est si vous vous en souvenez, la manière dont les acteurs plus physiques ont été forcés de s'intéresser à l'e-commerce, parce que évidemment, comme tout ce qui s'est passé sur Internet, il y a eu des nouveaux acteurs qui sont arrivés, et puis les incumbents, comme on dit en anglais, les gens qui étaient déjà là, se disaient au début certainement, non mais enfin, c'est quoi cette merde, c'est quoi cette mode, ça va passer, ça représente rien du tout, on va pas s'y intéresser. Puis petit à petit, ils ont été forcés de développer des portes qui leur donnaient accès à ce type d'activité. Ça s'est fait dans les années 2000. Qu'est-ce qui les a forcés, en fait ? C'est le fait que le chiffre d'affaires de ce type d'activité avait tellement grossi, ou qu'est-ce qui leur a...
Ouais, alors c'est multifactoriel et on pourrait passer beaucoup de temps. Je vais essayer de synthétiser à l'extrême. Il y a eu plusieurs choses. D'abord, effectivement, le site e-commerce, il a pris... Oublie, supposons que tu n'as pas de site internet et que tu es une marque, tu as une boutique. Tes concurrents vont commencer à avoir un site internet et ils vont te prendre des parts. Donc, au début des années 2000, en fait, le site internet, c'est un magasin physique concurrent. et très vite, il devient le premier magasin physique de ton réseau. Mmh. Donc, tu as les boules parce que tu as un magasin, tu te lèves tous les jours, tu travailles dur, tu fais tes vitrines et derrière, tu as des clients soit qui viennent en magasin et qui achètent en ligne ou soit tu as plein de communication qui est faite, des pubs à la télé mais qui envoient vers le site internet, etc. Donc, beaucoup de frustration. Les boîtes, elles ont repensé leur business model, repensé leur stratégie et elles ont intégré le magasin. Et ensuite, un truc super intéressant qui est arrivé.
Pardon, quand tu dis la frustration, c'est aussi que si ton concurrent dans l'espace physique, lui, il a son site en ligne et que toi, tu ne l'as pas, et qu'il vend en ligne et que toi, tu ne vends pas en ligne, bah, c'est-à-dire que les gens qui vont venir regarder ce qu'il y a chez toi, ils vont aller en ligne et comme toi, tu n'existes pas en ligne, ils vont aller chez ton concurrent. Donc, c'est un des facteurs qui fait que...
Exactement.
Ouais, Laetitia.
Ouais, c'est exactement ça. Le fait de ne pas avoir de site en ligne, de ne pas avoir cette vitrine-là, c'est un avantage ou un désavantage concurrentiel. Et c'était l'un des principaux moteurs pour les marques à l'époque. Et elles étaient prêtes, et Adrien en est témoin, à tout. L'argent à ce moment-là n'était pas un problème. En revanche, il y avait une question technique. Comment est-ce qu'on fait pour aller sur le e-commerce?
Et en termes de strat, tu vois, Patrick, la question au départ, quand tu fais moins de 5% de ton chiffre en ligne, c'est pas très important, c'est pas stratégique. Mmh. Mais tu sais, ce 5%, il a commencé à augmenter au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, la moyenne en France, on est à 14%. C'est-à-dire que sur une enseigne, une marque, si tu vas dans un centre commercial, la marque, en moyenne, 14% de son chiffre total est en ligne. Donc, je peux t'assurer que le responsable e-commerce, il est plus au fond de la cave comme il y a quelques années, mais aujourd'hui, il est avec la direction. Non, mais c'est stratégique, ça devient stratégique. Et en plus, ça infuse les magasins. Il y a des concepts qu'on appelle l'omnicanal, le multicanal, ces choses où on voit qu'en fait, même toi, tu vois les choses en physique. Tu vas ensuite sur les réseaux sociaux, tu vas ensuite sur le site internet, etc. Donc tout est entremêlé.
Ouais, tout est entremêlé. Et je pense qu'avec Adrien, on a vraiment, ça fait un peu boomer de dire ça, mais on a assisté au tout début où effectivement, les marques, elles voulaient avoir leur site internet, mais la grosse crainte, c'était oui, mais ça va être en concurrence avec mon magasin et ça va être en concurrence même avec mes propres vendeurs. Et mes vendeurs ne font pas d'e-commerce, mes vendeurs ne sont qu'en boutique et ils ne font que ça. Et tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, le métier de vendeur a complètement évolué parce que click and collect, parce que plein de choses d'ailleurs.
Ouais, tu veux dire que même les vendeurs dans les magasins ont été influencés par ce
mais oui, totalement, totalement. Ouais. Moi, je me souviens avoir organisé des tables rondes sur le sujet le vendeur n'est pas mort, il existe toujours. Enfin, c'était vraiment des préoccupations de retailers qui sont toujours là au demeurant. Mais voilà, Adrien parlait de concept d'omnicanalité. C'est bien entré dans les mœurs maintenant. Et puis, surtout que les choses ont évolué parce que le social commerce est arrivé, parce que le quick commerce, parce que des tas de choses qui font que les préoccupations d'antan ne sont plus les mêmes. Mais il y a toujours eu cette forte concurrence entre le retail physique et le retail online.
Est-ce qu'on, si on vient à la situation d'aujourd'hui, du coup, avant de parler des différents facteurs qui la composent, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le commerce en ligne et en physique travaille vraiment main dans la main et tout le monde est d'accord que tout est important pour la vie de la société, ou est-ce qu'il y a encore des endroits où ça se fight, ça s'accuse, il y a du ressentiment? Qu'est-ce que vous, votre perception, parce que bien sûr on n'est pas dans toutes les boîtes, mais...
Mon avis, malheureusement, il y a de tout. Il y a les marques qui sont matures et qui ont compris qu'il faut intégrer l'e-commerce dans sa stratégie physique ou omnicanal. Donc, en fait, l'e-commerce est un des leviers. Il faut que tout le monde s'assoie pour discuter. Mais malheureusement, tu sais, quand on parle souvent de transformation digitale, on est exactement là. C'est comment est-ce que tu vas comprendre l'online, l'e-commerce, le digital, et tu vas l'intégrer dans sa stratégie. Donc, je dirais pas aujourd'hui, oui, tout le monde en a conscience. Est-ce que tout le monde l'a mis correctement en place? Non. Et il y a un autre challenge, c'est ok, supposons que ton e-commerce il est propre et tu fais les choses correctement, ton magasin aussi doit se réinventer. Qu'est-ce que tu fais dans ton magasin pour le lier? Et les coûts, mettre une chose, rien que mettre internet dans un magasin, c'est pas un projet qui se fait en 3 mois. Ça demande beaucoup d'investissement, de formation, etc. Donc je veux dire, le sens de l'histoire, il est bon, on y arrive et il y a plein de marques qui sont matures et qui l'ont compris, mais encore beau, ça va prendre encore du temps avant que ça soit complètement intégré. Et pour que quelqu'un comme toi, quand tu vois un produit en physique dans un magasin, tu as le même produit sur le site internet et c'est quelque chose qui te paraîtrait normal. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Oui.
C'est marrant parce qu'on pense évidemment, enfin moi quand je pense à l'e-commerce aujourd'hui, on évoque Amazon... On va dire, pour moi, c'est principalement Amazon. Je me demande d'ailleurs quel pourcentage il représente du chiffre d'affaires de l'e-commerce en France. Bon, je ne sais pas si on a ces infos, mais on évoque aussi, je ne sais pas, on va dans un centre commercial, on voit une marque, c'est sans doute une chaîne qui a des magasins dans le pays, voire dans l'Europe ou dans le monde. Mais c'est vrai que quand on parle de situation aujourd'hui, bah, quelle que soit notre taille, j'imagine qu'il y a plus de chances que non, je fais des anglicismes, qu'on ait besoin d'avoir une présence e-commerce. Ça veut dire que tout le monde a besoin d'une présence e-commerce. Et je pense, je ne sais pas moi, par exemple, à des petits producteurs de vin perdus quelque part dans le fin fond de la campagne. Ce n'est pas parce qu'on est un... Et même au contraire, ils peuvent bénéficier beaucoup plus d'une présence e-commerce que peut-être des marques plus importantes, quoi.
Et Patrick, bah Amazon, c'est 15-20% en fonction de comment tu calcules et des années en France. Donc, c'est énorme. Et pour rebondir sur ce que tu dis, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, juste pour clarifier une chose, vendre en ligne, ça ne veut pas nécessairement dire seulement avoir son site internet. Tu peux ne même pas avoir de site internet et vendre en ligne, notamment au travers, on a parlé d'Amazon, au travers de la marketplace, tu peux très bien pousser tes produits chez Amazon et les vendre. Tu n'as pas de site en propre, mais tu vends. Et le petit producteur, ce serait peut-être un conseil qu'on lui donnerait. Au début, va avoir une marketplace verticalisée, spécialisée dans le vin, et tu vas commencer à pousser tes produits et ensuite, tu peux commencer à le faire en direct.
Et alors, pour revenir sur cet exemple du petit producteur, Amazon, c'est typiquement leur cible et c'est ce qu'ils font. Ils vont chercher des petits producteurs et ça a été hyper développé pendant la pandémie et encore aujourd'hui. Moi, sur ma page d'accueil qui est bien personnalisée sur Amazon, on me met en avant des petits producteurs de fromage, de fruits et de légumes. Et comme le dit Adrien, en fait, aujourd'hui, pour faire de l'e-commerce, on n'est pas obligé d'avoir un propre site e-commerce. Hein. Il y a la marketplace, il y a le dropshipping, il y a peut-être uniquement sur des réseaux sociaux. C'est possible de vendre uniquement sur des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité via des Insta Shop, des TikTok Shop, de pouvoir acheter depuis les applications. Donc finalement, tu as raison de le souligner, je pense que c'est très année 2010 jusque 2020 de se dire bon, il nous faut vraiment un site e-commerce pour vendre en ligne.
mais c'est vrai parce que finalement, je suis petit producteur et je suis sûr que la plupart des petits producteurs sont déjà au courant de ce genre de choses et le font. Mais moi, j'en ai pas forcément une conscience consciente là quand on en parle. Mais si je vends, je sais pas moi, mon miel artisanal fait quelque part à la campagne, je peux demain très facilement établir un compte pro sur Insta ou sur TikTok et faire un post Instagram que je mets en promo en lien avec mon shop sur la plateforme avec 3 produits et demain je peux commencer à recevoir des commandes de partout et commencer à vendre en plus quoi. Ouais, et devenir c'est vraiment hyper simplifié, on n'a pas besoin de développer un site, avoir un WordPress, installer un Shopify, un machin, c'est hyper simple.
Patrick, tu viens de mettre le doigt sur le Game of Thrones de l'e-commerce. Tout le monde se bat pour exactement ce que tu es en train de décrire. Les plateformes de réseaux sociaux, ils ont compris, les TikTok et compagnie, nous, on veut que les gens ils restent sur notre plateforme. Donc, on va donner ces fonctionnalités et en 3 clics, tu vas pouvoir vendre. Les Google, ils sont sur le moteur de recherche. Ils disent non, j'ai pas envie que tu quittes mon moteur de recherche. Je vais te permettre, dans Google Shopping notamment, d'acheter directement.
Sur la page, quand tu fais ta recherche, tu peux directement acheter. Ouais,
Tu achètes directement, tu te fais livrer, etc. Et chaque acteur, comme ça, Amazon, il veut également capter et faire en sorte que tu achètes et que tu quittes pas son site. Tout le monde, c'est stratégique pour tout le monde de capter le consommateur et de faire en sorte qu'il reste dans son écosystème. Et il y a une vraie guerre. Et j'utilise pas, enfin, faudrait peut-être pas utiliser ce mot en ce moment. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'investissements et d'innovations qui sont faites. Et du coup, ça rend le domaine hyper excitant.
Alors moi, je suis un peu madame loi. Ce que ta proposition de vente, Patrick, elle est géniale, sauf que pour faire de la vente en ligne, il faut des CGV quand même. Hein. Il faut un cadre. Il faut que tu puisses assurer une transparence, mais vraiment... unique avec ton client, parce que lui, il a envie de savoir quand est-ce que tu vas lui envoyer, comment il peut suivre son colis, comment il peut te retourner ton pot de miel si ça ne lui convient pas. Et toutes ces choses-là, ça doit quand même être enregistré quelque part, ça doit être lisible. C'est la loi, en fait. Et puis alors après, on va aller dans des concepts un petit peu plus compliqués, mais quelle expérience client tu offres à ton client? Est-ce que c'est un 3 clics? Ok, mais ton 3 clics, il doit être génial. Ton Instagram, il doit être magnifique. C'est ma version. Mais il faut quand même pouvoir offrir une expérience d'achat de la même manière que lorsqu'on achetait sur le catalogue La Redoute. On était épaté par les belles photos. On était épaté par plein de choses. C'est aussi la même chose lorsqu'on achète en 3 clics sur les réseaux sociaux.
La concurrence est hyper féroce. C'était en concurrence avec tout le monde. Donc,
avec le monde entier, exactement. Ouais.
Tu as, toi, Patrick, un site préféré, un site que sur lequel tu achètes, ou c'est Amazon?
Moi, j'avoue que c'est beaucoup Amazon. Aujourd'hui, en plus, je vis en Finlande, donc il y a d'autres sites qui font partie de mon... Mais d'une manière générale, mon réflexe, c'est Amazon. Pourquoi? Parce que c'est facile. Je suis abonné Prime, donc je peux être livré plus facilement. Et puis, on trouve de tout et c'est un interlocuteur, on va dire. Donc, j'avoue que moi, c'est beaucoup...
En dehors d'Amazon, tu te souviens la dernière fois que tu as acheté quelque chose hors Amazon?
Alors, encore une fois, parce que c'est sur des sites finlandais. Donc, il y a certains trucs que j'achète en Finlande sur des sites finlandais. Mais oui, il y en a quelques-uns, si je pense à la France, pour que ça soit des trucs qui parlent aux auditeurs. Je suis sûr que j'ai dû aller, je ne sais pas, sur la Fnac, par exemple, au hasard. Fnac Darty, hein, c'est le même groupe. Peut-être des trucs comme LDLC, des trucs de geek informatique, ce genre de choses. C'est à ça que je penserais, oui.
Et c'est amusant parce que tu listes là des marketplaces, enfin donc des places de marché, des sites qui proposent un catalogue et qui l'ouvrent à des vendeurs tiers. Et tu regardes dans le top 10 des sites e-commerce les plus consultés en France, la majorité sont des marketplaces. C'est une vraie tendance incroyable qu'on voit ces dernières années. C'est un bulldozer. Et tu vois, tout le monde voit sa marketplace, ça a plein de vertus notamment.
Bah oui, parce que quand tu connais la boutique, enfin c'est comme, je sais pas, tu vas dans un centre commercial auquel tu es habitué d'aller et puis tu y vas parce qu'il y a des trucs que tu aimes bien et tu vas, je sais pas, à tel restaurant ou tel fast-food, bah le magasin qui sera à côté de là où tu vas déjà, forcément t'as plus de chances d'y aller que le truc qui a ouvert à 10 km dans un truc que tu fréquentes pas, quoi.
C'est exactement ça. Et en plus, le centre commercial, tu n'as pas trop d'affinité, mais si ton coiffeur, il te propose un produit, tu lui fais confiance et il a une gamme de produits qui vend. Et donc, il y a quelque chose. Donc, tu as la garantie. Et si tu as un problème, tu iras le voir lui et tu n'iras pas le voir le producteur ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ça a plein de bénéfices.
Du coup, la situation aujourd'hui, si on vient à cette partie de la discussion, est-ce qu'on peut dire que c'est ça? C'est les marketplaces et je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut parler de ces tendances, mais le commerce, le social commerce, donc acheter sur les réseaux sociaux.
Ouais, nous, ce qu'on s'était dit avec Laetitia, c'est qu'on voulait dire un petit peu, si quelqu'un débarque là en 2022 et se dit de quoi on parle quand on est dans nos petits dîners mondains, c'est quoi les sujets chauds un petit peu. On en a listé quelques-uns et puis on voulait t'en parler. Laetitia, tu veux commencer?
On est des gens passionnants dans nos dîners.
Les pots de vendredi chez les e-commerçants, chez les spécialistes, ça a l'air d'être la fête. Hein,
c'est la fête. Bah ouais, c'est la fête parce qu'on parle de social commerce. Et le social commerce, bah, il est quasi partout pour qui a un smartphone et qui est un peu connecté. Le social commerce, moi j'ai envie de dire, alors je suis très très critique sur ça. Le social commerce, c'est le fait d'acheter en ligne, mais plus précisément sur un réseau social. On connaît toutes et tous un peu l'avènement des réseaux sociaux. Hein, voilà, c'est quasi peu ou prou la même histoire à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui que l'historique du e-commerce que je vous ai fait. Mais moi, je suis hyper sceptique parce que Patrick, toi, tu connais bien Twitter. On a déjà évoqué plein de fois Twitter. Par exemple, Twitter, ça galère au niveau du commerce. Ils ont déjà, dans les années, je crois que c'était en 2015, 2016, il y avait un petit bouton buy qui est tombé dans les dans le cimetière.
Si on me demande aujourd'hui si je mets ma main à couper, ils en ont ou ils en ont pas, j'aurais presque tendance à penser qu'ils n'ont pas de sous-système e-commerce. Et pourtant, ils en ont un.
Il y a Twitter Shop qui a été relancé. Voilà, ils sont allés rechercher la fonctionnalité buy qu'ils ont baptisé Twitter Shop en août 2021. Et si on regarde bien, tout s'est à peu près décanté après le Covid et tous les réseaux sociaux sont mis à développer une fonctionnalité e-commerce. Le groupe Meta a vachement investi avec du Insta Shop, du Facebook Shop. Enfin, maintenant, oui, c'est Facebook Shop. Il y a une marketplace sur Facebook qui fonctionne vachement bien, un peu sur un principe du bon coin, qui fonctionne très très bien. Et puis bien évidemment, on a TikTok aussi en août de 2021 qui s'est lancé sur le social commerce. Pinterest qui à la base était plutôt sur du discover, donc de la découvrabilité, donner l'envie, l'intention d'achat. Finalement, on a des marques comme Leroy Merlin qui enrichit son catalogue et met carrément tout son catalogue sur Pinterest et se dit, mais tiens, sur la fonctionnalité déco de chambre de bébé, enfin sur la recherche déco de chambre de bébé, là il y a un truc à jouer, allez, on va pousser pour que Pinterest nous propose un bouton acheter. Et c'est souvent, hyper intéressant, ce sont les retailers qui poussent.
C'est hyper intéressant, Pinterest, parce que c'est J'adore. Une plateforme qui a fait énormément de bruit il y a 4-5 ans peut-être, quelque chose comme ça, qui était simplement de faire presque des moodboards, en fait.
C'était des moodboards, oui.
C'est ça. Et dont on n'a plus trop entendu parler, mais qui continue à être énorme et qui est une opportunité de vente, enfin, effectivement énorme, quoi, parce que c'est plus ça, c'est genre, je vois un produit que j'aime bien, oh, qu'est-ce que je pourrais bien faire après ? Ça, je me le demande. Et donc, ils sont partis sur l'e-commerce aussi. Ouais.
Et puis, ils se sont surtout mis en avant, alors, un peu en avant-vente, Pinterest, un peu l'avant-vente, voilà, dans tout le cycle de vente. Et ils se sont dit, allez, pourquoi pas pousser jusqu'à l'acte d'achat. Les gens avec qui je discute, qui utilisent Pinterest, ils ont toujours des super chiffres, parce que déjà, c'est peut-être plus facile de comprendre l'algorithme de Pinterest. On peut faire de la publicité aussi sur Pinterest. C'est un peu moins cher et c'est un peu moins un labyrinthe un peu fumeux que ce qu'on peut avoir sur toutes les plateformes du groupe Meta. Moi j'aime bien cet exemple de Pinterest qui à la base n'était pas pensé pour du social commerce mais qu'il est devenu à la force de choses. Et puis moi il y en a un autre, j'ai un autre petit chouchou, c'est Snap qui pour moi à la base n'était pas fait pour ça, mais qui a mis toute son innovation, toute sa son intelligence, non c'est pas l'intelligence artificielle mais toute la réalité augmentée au service des marques. Les marques raffolent Snapchat, utilisent Snapchat vraiment comme vitrine. Voilà, on évoquait tout à l'heure le fait, est-ce qu'il faut que j'ai un site e-commerce ou pas ? Certaines marques qui peuvent se dire, bah non, moi je mise tout sur Snapchat parce que Snapchat me propose des fonctionnalités e-commerce ultra poussées, des fonctionnalités où je peux tester en réalité virtuelle des chaussures, un sac, où je peux mettre de la gamification. Toi qui es beaucoup dans le jeu, Snapchat fait vachement appel à ça.
D'accord.
Il y a encore le petit souci de comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre le client qui sorte de cette app. Il faut que tout le monde reste dans l'app. Ça, c'est le gros souci du social commerce. On a un peu le graal des super apps chinoises où tout se passe dans l'app, personne ne sort.
Les Line et les WeChat et les trucs comme ça.
Exactement.
Les super apps, c'était l'obsession de Mark Zuckerberg avant qu'il soit obsédé par
le métaverse.
mais du coup, sur Snapchat, ils ont effectivement toutes leurs lenses, leurs filtres. Les trucs où on se met une chaussure sur la tête. Mais du coup, on peut aussi, si on a la chaussure Nike, on tombe dessus, on peut aller acheter à l'intérieur de Snapchat. Ça, je savais pas.
Eh oui, tu peux. Ouais,
d'accord,
ouais,
ils ont leur
Alors,
shop aussi.
Ils ont développé un truc qui s'appelle un espèce de brand portal où tu as des marques. Souvent, ce sont des marques de luxe d'ailleurs qui vont sur des campagnes comme ça Snap.
Mais c'est des jeunes, ils ont pas d'argent sur Snapchat à 14 ans. Tu peux pas te payer.
Alors, il y a un problème de cible. Il y a un problème de cible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un gros problème de cible. Donc du coup après de conversion, mais oui tu as des marques comme ça qui moi j'ai toujours en tête Ralph Lauren à Noël, alors c'était il y a 2 ans je crois, qui avait fait une superbe campagne et c'était, tu pouvais visiter la maison idéale de Ralph Lauren, tu avais le sapin puis tu pouvais cliquer sur un cadeau, tu pouvais l'ouvrir et puis après tu pouvais acheter le cadeau. Enfin moi l'expérience j'adorais.
C'est le cadeau que tu peux acheter, c'est un concept hyper porteur,
c'est un beau concept, mais les marques y vont parce qu'elles peuvent raconter des histoires. Ouais. Un petit peu plus long que des stories, un petit peu plus long que des reels aujourd'hui, comme nous l'impose Instagram. Et il y a une vraie, ouais, il y a une vraie narrative qui peut être faite. Adrien, je vois que tu lèves la main. Vas-y.
Non, je trépigne parce qu'en fait, ça c'est le côté beau glams des réseaux sociaux. Moi, je vois l'autre côté qui est qu'est-ce qu'ils font en 2022. Ils sont toujours pas au niveau pour proposer quelque chose de simple pour vendre en ligne. Et il y a deux gros problèmes parce que là, on donne des cas d'utilisation, mais c'est minoritaire par rapport à l'utilisation qui est faite de ces plateformes et comment les marques l'utilisent. Numéro un, les consommateurs ne sont pas encore prêts à acheter sur les réseaux sociaux parce que comment est-ce que tu comment tu gères les retours, les réclamations, la livraison, donner des informations avec tous les problèmes de données privées, donner des informations de carte bleue ou des informations personnelles, ce n'est pas encore quelque chose qui est complètement pris ou en tout cas les consommateurs ne sont pas encore là-dedans. Donc ça, un frein d'usage. Et le deuxième, c'est ces plateformes, elles ont du mal à innover ou à donner des fonctionnalités qui vont être utilisées par les marques. Tu vois, c'est triparti. Si tu ne donnes pas les bonnes fonctionnalités, et c'est très dur pour elles d'innover parce qu'elles ont des milliards d'utilisateurs et faire une moindre modification, tout le monde commence à dire au secours, vous avez fait des changements. Et donc, du coup, je vois vraiment quand même une inertie et moi, je suis frustré parce qu'ils ont de l'argent, ils ont une population énorme, ils ont une visibilité, ils ont toutes les marques sur ces plateformes, ils ont les consommateurs qui cherchent des produits et pourtant, ils n'ont pas activé les fonctionnalités e-commerce.
Mais c'est quoi, par exemple ? ce qui te manque sur ces plateformes, ce qui te fait dire que c'est frustrant pour quelqu'un comme toi. Il y a quoi comme fonctionnement ?
Alors moi, c'est pas frustrant, c'est juste, je dis, ils sont quand même à la traîne, si tu regardes par rapport à d'autres acteurs. On parlera tout à l'heure des GAFAM, comment ils se positionnent, mais l'argent, ils l'ont, les ingénieurs, ils sont intelligents, et pourquoi ils sont pas mieux positionnés là-dessus ?
Mais sur quoi alors ? C'est quoi ce qui manque ?
Et ben donc un, ça revient à tout ça, c'est les usages, les consommateurs, ils sont pas prêts parce qu'ils leur font peut-être pas confiance. Et deux, ils ont pas développé correctement les briques. Tu vois tous les projets que Google lance, Facebook, Amazon, et qui durent 1 an, 2 ans et ensuite laissent tomber parce qu'il y a pas de ROI ou parce qu'ils l'ont pas bien délivré ou parce qu'ils ont pas la bonne connaissance pour l'adresser. Donc en fait, c'est pas juste une raison, mais ils peinent. Là où d'autres acteurs spécialisés, ils vont lancer quelque chose et puis ils vont avoir du succès.
Oui, puis je pense qu'aussi, ça ne rassure pas hein, de vouloir que Meta nous propose un acte d'achat sur. Voilà, ça ne rassure pas. Et on n'a pas tous ces éléments de réassurance qu'on peut trouver sur un site e-commerce. Adrien parlait des CGV, parlait du post-achat. Bon, si j'achète quelque chose sur Facebook, vers qui je me retourne si je n'ai pas reçu mon colis et tout, il est où le bouton voilà, bon, bah, on va me renvoyer sur un Messenger, je vais avoir un robot derrière, ça rassure pas, il n'y a rien qui rassure dans tout ça. Et puis surtout, ce qu'on veut, en tout cas moi, ce que je veux, c'est pouvoir acheter avec des éléments de réassurance surtout, et puis en deux clics, quoi. J'ai pas envie que ce soit compliqué, j'ai envie que mes infos soient déjà dedans, j'ai envie d'avoir vraiment cet élément de bah, je vais le recevoir à coup sûr tel jour, telle heure, et puis pas être sur 10 milliards de pages et
pas
avoir
le cas
mal à la tête
sur, pour ça. C'est pas le cas sur un truc comme Instagram, justement, qui vend beaucoup. Enfin, ça marche bien, le commerce sur Instagram. C'est pas le cas, cette simplicité, cet aspect un petit peu, enfin, un minimum rassurant aussi vers qui se tourner. Ça reste aléatoire.
Quand tu es une toute petite marque, c'est bien parce que tu peux très facilement faire des lives, vendre et être en contact avec tes communautés. Quand tu commences à être une plus grande enseigne, multi-marque, multi-pays, c'est beaucoup plus compliqué de gérer. Comment tu récupères on n'en a pas parlé, mais tu sais, la donnée, tout n'est pas partagé. Quand tu as ton site, tu sais tout sur ton client, tu peux faire de la segmentation, tu peux faire du suivi, là où les réseaux sociaux, elles se gardent de le partager. Mais en tout cas, le point du social commerce, c'est juste de dire que historiquement, réseaux sociaux, c'est de l'acquisition et puis tu éduques ton client, tu fais ce que toi tu fais, tu vas sur. Tu vas comparer les choses, etc. Ça peut être YouTube ou ce qu'on veut. Et tu as ton site internet pour acheter. Et aujourd'hui, les frontières, elles sont de plus en plus floues. Le site internet va avoir du contenu social. On peut en discuter tout à l'heure. Les réseaux sociaux, on va avoir du contenu commerce, le panier. Et voilà, les barrières sont un petit peu plus floues.
OK. Pour continuer ou finir sur la situation aujourd'hui, donc le social commerce, c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
On a notre dada qu'on aime bien brandir.
On a les celui qu'on voit partout, parce qu'en fait, même si tu évolues pas dans l'e-commerce, tu as entendu parler des Gorillaz, Cajou, Flink, Getir, sont des acteurs du quick commerce. Tu les as, toi, là où tu es, tu as ces acteurs qui permettent de livrer
moi,
en
5 tellement,
minutes, 10 minutes.
Tellement à la campagne que 5 minutes, c'est pas possible. Il y a
maintenant un
Smilly
ou quelque chose comme ça, non ?
Pas chez moi, ici, là où je suis, parce que vraiment, pour vous donner une idée de la quickness de mon commerce, le magasin le plus proche, il est à peu près à 10 km. Donc, vous voyez, niveau quick commerce, ça existe, quick commerce, pas tellement. À Helsinki, je crois pas en avoir vu encore. Il y a beaucoup de livraisons par les Uber. Il y a un truc qui s'appelle Volt qui marche très, très bien, qui a d'ailleurs une interface formidable. Pour justement, on parlait d'être assuré, de savoir ce qui se passe. Volt, ils ont un petit truc qui te fait, qui t'indique. Alors là, ton message a été envoyé, ton message a été vu par un être humain. Ils sont en train maintenant de préparer ton truc. Le livreur est en chemin vers le. Enfin bon, bref, ça marche très très bien. Mais il y a ça. Il y a pas par contre tous les Gorillaz, Getir, les trucs de livraison en 10 minutes.
pour les personnes qui savent pas de quoi on parle, le quick commerce, ce sont des acteurs qui sont arrivés il y a moins d'un an et qui se positionnent. Où la promesse est de dire qu'en moins de 10 minutes, on va te livrer tes produits de première nécessité. Ça peut être des pâtes, du ketchup ou du papier toilette. Et donc, on peut dire bah, qui va acheter ça ? Et bah, ça cartonne, surtout dans les villes, surtout dans les endroits qui sont denses. Et tu commences à préparer ta cuisine, tu te rends compte qu'il te manque quelque chose. Au lieu d'aller dans le magasin en bas, tu vas le commander et en moins de 10 minutes, tu le reçois. Donc, promesse incroyable. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité. Donc, c'est super pour le consommateur, mais derrière, il n'y a pas de rentabilité. Il y a de la croissance à tout prix. Donc, ces startups, elles sont survalorisées. Elles perdent de l'argent et depuis le début de l'année, elles sont en train de mettre la clé sous la porte ou de virer. Donc c'est quelque chose qui a appris. C'était le sujet 2021, c'était quick commerce dans tous les sens. Et là, les gens, on commence à se réveiller et puis la bulle commence à peut-être pas exploser, mais en tout cas se réduire.
Se contracter, mais du coup, C'est ça la question, c'est que là, on est vraiment dans un phénomène qui est peut-être un phénomène, je ne vais pas dire de mode, parce qu'il y a plein de trucs qui sont tentés partout, dans tous les domaines, en particulier dans la tête. Il y en a qui marchent parfois, d'autres qui marchent moins. Est-ce que là, vous avez l'impression, tous les deux, avec votre expertise, que c'est un truc qui est en train de se contracter parce qu'il y a une consolidation et puis une peut-être baisse des ambitions? Ou est-ce que c'est carrément que ce n'était pas réaliste et que ça risque de disparaître complètement?
Moi, je vais te répondre que je fais ma Laetitia, là, je vais te mettre point de vue consommateur. Quand on m'a dit, je reçois le produit dans 3 jours, il y a quelques années, j'étais super content. Ensuite, on nous a promis le J+1. C'est génial, je le reçois demain. Ensuite, on nous promet dans la soirée, la réception. C'est canon, je le commande et je l'ai. Et là, on nous promet dans l'heure ou même dans les 10 minutes. Donc, le consommateur, il voudra toujours, heureusement ou malheureusement, on peut en discuter ensuite, parce que ça a des impacts écologiques, etc. Mais le consommateur, finalement, il voudra toujours, il voudra toujours avoir quelque chose de plus en plus vite. Donc, pour répondre à ta question, je ne pense pas que c'est un phénomène de mode parce que on va dans cette direction de tout beaucoup plus vite. Vite, il faut consommer. Et par contre, il y a une réalité économique et ces boîtes-là, elles n'ont pas encore trouvé le bon business model. Donc, il faut augmenter les marges et donc, il faudra que ça soit peut-être plus cher et que ça s'adresse juste à des personnes, des happy few qui ont de l'argent et qui veulent se faire. Et Laetitia aime, et je vais lui donner la parole, mais je vais te paraphraser, elle aime bien appeler ça l'économie de la paresse. J'aime beaucoup
la flemme, de la flemme.
Ah pardon, l'économie de la flemme. J'arrive même pas à te paraphraser. Ouais. J'aime bien cette image, Patrick, parce que ça te montre que il y a quand même, tu vois, des segments, mais si tu regardes aujourd'hui pour la bouffe, moi je le vois très bien demain arriver sur des produits physiques. Tu veux ton jean ou tu veux quelque chose, un manteau, quelque chose, demain les marques, elles peuvent avoir un premium et te dire tu le reçois en 15 minutes. Ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Je pense que ça va aller. Et tiens, tu voulais
je suis d'accord. Oui, je plus sois, oui, effectivement,
tu es d'accord avec toi-même.
Je suis d'accord avec moi-même, c'est l'économie de la flemme.
Et
il y a une
coup,
autre tendance.
L'autre tendance.
L'autre tendance, c'est le RSE, c'est tout ce qu'on a autour du pas du greenwashing, je l'appelle comme ça, mais c'est pas du greenwashing, mais en tout cas c'est tout ce qui est sur l'économie responsable. Comment est-ce qu'on peut faire du e-commerce proprement? Comment est-ce qu'on peut faire du e-commerce en ayant conscience que on consomme, on utilise des ressources pour faire ça? C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur avec Adrien depuis le début du podcast. Donc maintenant c'est 3 saisons, on regarde ce qui se passe beaucoup autour de la seconde main. Alors, au début, je sais qu'Adrien regardait ça un peu d'un œil distant, en disant mais c'est du greenwashing. Alors oui, parfois c'est du greenwashing, parce que la réalité quand on a un e-commerce, c'est que y a des coûts associés, il y a des ressources qui sont associées, et puis surtout on va parler de ce fameux le dernier kilomètre qu'il faut livrer, les retours aussi, quand on a encore des retailers qui vous proposent gratuitement de renvoyer, que le consommateur puisse renvoyer gratuitement tout ce qu'il ne porte pas, tout ce qu'il ne met pas. On a des choses comme ça, et sans parler encore de fast fashion et de choses comme ça, d'acteurs d'ultra fast fashion qui se prévalent d'être green et qui ne le sont pas du tout. C'est une vraie préoccupation, c'est pas une tendance, c'est une vraie préoccupation. Oui, Adrien.
Oui, la RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Pour le faire très simple, c'est comme le disait Laetitia, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en compte l'environnement, les enjeux de notre monde pour l'entreprise. Et ces enjeux-là, ils passent par ce qu'a décrit Laetitia. Mais pourquoi c'est quelque chose que nous, on voit dans l'e-commerce? Parce que, un, ton consommateur, il n'achètera pas ta marque si tu continues à faire n'importe quoi. Deux, ta marque, elle n'arrivera pas à avoir des investisseurs si tu continues à faire n'importe quoi. Les employés ne vont pas rejoindre une marque qui n'a pas de sens et qui fait n'importe quoi. Donc, en fait, la chaîne est bouclée, ce qui est cool parce qu'en fait, ça va commencer à faire des choses vertueuses. Malheureusement, les vieux comme nous, c'est trop tard. C'est les jeunes qui sont en train de pousser et qui ont des vraies convictions, qui vont dire non à un boulot ou qui vont dire non à une marque pour porter leurs convictions. Et du coup, comment ça s'intègre dans l'e-commerce, ça va passer avec des choses qui peuvent être tellement simples comme la provenance sur la fiche produit. Tu mets la provenance, tu es transparent sur les produits que tu as. Et ensuite, ça peut aller sur des trucs de fou furieux, de livraison avec de l'électrique, etc. Plein d'autres choses. Et tu peux faire, il y a plein de dispositifs que tu peux mettre en place dans la chaîne e-commerce qui peuvent avoir un impact positif.
Alors, ce que tu viens de décrire, Adrien, c'est vrai pour l'e-commerce occidental. La condition des travailleurs, par exemple, on s'en fout dans certaines contrées du monde. On s'en fout aussi qu'on utilise des matériaux nobles, propres, qui ne polluent pas. On s'en fout d'envoyer à gogo par cargo à l'autre bout du monde plein de choses. Donc, c'est une réalité très occidentale, je précise. Mais c'est une réalité qui est quand même sur la table de l'ensemble des retailers.
Et du coup, c'est une tendance qui s'infuse dans l'ensemble de l'industrie et qui est une réflexion, qui est une conséquence des préoccupations écologiques de l'ensemble de la société, mais c'est la manière dont ça se concrétise dans l'e-commerce. Et ça a donc des conséquences sur la manière dont on y pense et dont on y réfléchit. Quoi.
Tout le monde en parle dans l'e-commerce. Ouais. Toutes les directions e-commerce en parlent. Il n'y en a pas une seule. Et c'est quelque chose qui est transverse. Ce n'est pas juste l'e-commerce qui va en parler, mais c'est la boîte. Et nous, le sujet, c'est l'e-commerce. Comment ça se traduit ? Un des exemples qui se traduit, et on a vu, c'est comme des champignons depuis 2 ans, c'est ces fameux sites de seconde main. Tu as La Redoute avec la Reboucle. Tu as Petit Bateau qui a lancé ça. Tu as Kiabi. Et depuis 2 ans, chaque mois, à un moment donné, c'était chaque semaine, tu as un site. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas avoir un site dédié, secondemain.monsite.com, où tu vas avoir des produits de seconde main. Ça va être du C2C, de customer à customer, où ça va être la marque qui va vendre des produits qui sont peut-être abîmés ou qui ne sont pas prêts à vendre, ou des produits qui sont retournés, etc. Donc, il y a eu beaucoup de com. Après, c'est beaucoup de com. Donc, est-ce qu'il y a une réalité derrière ? On pourra discuter, ce sera un autre débat sur ce marché de la seconde main, comment est-ce qu'il est fait et quel est son objectif. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens, et ce qui est plutôt bien. On nous reproche souvent, et avec Titi, on a souvent cette discussion philosophique. Là, on travaille dans l'e-commerce, on pousse à la consommation, c'est pas du tout en phase avec les valeurs qu'on peut avoir ou avec la réalité du monde. Mais pour autant, il y a énormément de choses qu'on peut faire et les gens, la majorité des personnes qui évoluent dans ce milieu, ils sont conscients de ça, ils font des efforts. Donc c'est plutôt cool.
D'accord.
Moi, je voudrais rajouter 2 choses. Les marques vont être forcées de le faire parce que y a l'inflation. Il y a cette satanée inflation qui fait que les gens ne peuvent plus trop acheter, vont aller sur de plus en plus sur des plateformes de seconde main et vont se détourner des marques qui vendent à des prix exorbitants des produits fabriqués par des gens sous-payés. Ça, c'est mon constat, moi. Le deuxième constat que j'ai, c'est que il y a aussi un warning sur les plateformes de seconde main de type Vinted. Vinted ne nous incite pas du tout dans l'orientation un peu green, éco-responsable. Vinted, sa tagline, c'est « tu le mets pas, vends-le ». Et puis, je vais t'inciter à acheter encore plus parce que tu vas être riche, tu vas revendre et tu vas revendre et tu vas être le vendeur numéro 1 sur la plateforme. Là, pour moi, c'est un gros warning et c'est pas du RSE et c'est pas être dans la seconde main. Très bien, hein, Vinted, je ne sais même plus s'ils sont les cornes, mais en tout cas, tout fonctionne très bien pour eux. Mais c'est pas dans cette voie-là que je voudrais voir le e-commerce propre.
Oui, je comprends. Donc, une vraie préoccupation. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire, tu étais un petit peu ambivalente sur est-ce que c'est du greenwashing ou pas ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance qui est authentique ou est-ce que c'est, ou peut-être les deux, hein, dans la vague éco...
Écoute, c'est toujours délicat quand tu as des marques qui te disent « Moi, je vous fais payer mes retours. Par contre, je fais du Black Friday parce que c'est super bien pour moi pendant 5 jours de vendre et de faire des promotions un peu mytho. Donc, il y a quand même beaucoup de greenwashing. Après, souvent, ça vient des DNVB. Hein, tu sais, cette espèce de conscience. C'est elles qui se sont un peu insurgées contre le Black Friday, qui appellent ça maintenant la Green Week ou le Green Friday, et qui s'engagent à ne pas vendre. Et qui le font très, très bien en toute transparence. Donc oui, il y a des marques pour lesquelles c'est vraiment leur ADN. D'autres pour qui ça n'a jamais été leur ADN et ça va être compliqué d'effectuer cette opération vers de l'éco-responsabilité.
D'accord. Ok, écoutez, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de l'historique et de la situation aujourd'hui.
Patrick,
oui.
Avant de passer à la suite, on veut te faire, nous, un petit jeu.
D'accord,
parce qu'on a parlé d'e-commerce, maintenant tu es un expert en e-commerce, donc tu vas pouvoir venir dans notre podcast. On a l'habitude dans notre podcast de faire des petits jeux, et on en a un, ça s'appelle le QPUC, c'est le question pour un champion. Donc on va te donner une définition et il faut que tu trouves le plus vite possible. Alors tu as tous les auditeurs qui vont hurler si tu ne trouves pas la réponse. Donc tu sais, c'est comme dans le jeu télé, donc c'est question pour un champion du digital. Dès que tu as la réponse, tu la donnes au micro. Est-ce que tu es prêt?
Non, mais on va y aller quand même.
Alors, ça peut être une marque, une personne, un objet, quoi que ce soit. D'accord. Alors, c'est parti. Entreprise française de commerce électronique, je suis créé en 2001.
Le slip français.
Je développe un concept original de vente sur Internet qui me permet de devenir le leader en France de mon segment. En 2016, je rachète mon concurrent espagnol. Mon fondateur est toujours le CEO et je fais partie du next. Bravo!
Bravo!
Yes!
Bravo, Patrick! J'ai terminé la description. Mon fondateur est toujours le CEO. Je fais partie du Next 40. En janvier 2019, je change de nom pour sonner plus international. Je fais partie des sites les plus populaires en France. Mon siège est à la Plaine Saint-Denis. À l'origine, je proposais un site web de vente destiné à des clients préalablement parrainés. Je suis dans la catégorie de la vente événementielle en ligne, appelée aussi vente privée. Je suis VP. Félicitations, Patrick.
Merci. Bravo, Patrick.
Ok, je commence bien.
Incollable en e-commerce.
Ah, donc c'était juste une question. Je croyais que tu allais en avoir plusieurs. D'accord.
Ah bon,
donc,
on en a plusieurs, mais on en a gardé une seule.
C'est bien. Bon, écoute, je suis très, très fier. Du coup, j'ai réussi en pas trop, trop longtemps. C'est un excellent moyen de terminer cet épisode sur le e-commerce. Il faudra peut-être qu'on fasse un deuxième épisode pour développer un petit peu plus les différents sujets qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, on est déjà à presque une heure. Merci à tous les deux. Je l'évoquais en début d'émission, mais vous animez votre podcast également, spécialisé sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus si les auditeurs veulent aller jeter une oreille par là-bas aussi ?
Eh bien oui, vous pouvez écouter le podcast Le Café de l'e-commerce qui traite de l'actualité e-commerce toutes les semaines. Voilà, c'est aussi des épisodes qui durent en moyenne une heure. On fait venir au micro des experts du e-commerce pour évoquer toutes les choses qu'on vient d'évoquer aussi, mais parfois on va encore plus en détail. On parle de fintech, on parle de métaverse, on parle de blockchain, de Web3, de plein de choses. Tout ça lié à la transaction, donc au e-commerce. Le Café de l'e-commerce disponible partout.
Magnifique.
Et encore une fois, merci Patrick, parce que tu nous as grandement inspiré dans la création du podcast. Donc,
oui,
c'est aussi grâce à toi qu'on est là. Ton nom est arrivé très tôt quand on a commencé à avoir l'idée émerger. Donc, merci mille fois, Patrick.
Mais merci à vous, merci d'avoir été là. Je suis toujours très heureux quand il y a des gens qui me disent « Oh, j'ai écouté tes émissions, ça m'a donné envie. » Ça me donne l'impression que ce qu'on fait, quelque chose qui a compté dans la vie des gens. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Pour ma part, vous savez, c'est notre Patrick sur tous les réseaux sociaux. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Patreon du Rendez-vous Tech, si vous voulez rejoindre la famille de ceux qui soutiennent financièrement l'émission, mais aussi le Discord, si vous voulez pendant l'été trouver un petit peu d'animation et des amis sur Internet. Et on reviendra la semaine prochaine. Alors, est-ce que ça sera un épisode spécial ? Est-ce que ça sera un épisode normal ? Est-ce que ça sera Patrick ? Est-ce que ça sera un animateur invité ? Je ne sais pas, on verra. Mais il y aura un Rendez-vous Tech la semaine prochaine. Et on vous donne rendez-vous à ce moment. Et on vous fait de grosses bises. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances. Et bon courage si vous ne l'êtes pas. À la semaine prochaine. Ciao à tous.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.